Chronique Nature, une chronique présentée par Hubert Debon.
Semences, biodiversité cultivée et migration. Habitant au bord du fleuve Hérault, à la campagne, je bénéficie d'un environnement calme et tranquille, qui est une source permanente d'émerveillement, de questions et de commentaires. Des réflexions variées émergent au cours de mes promenades, de mes lectures ou de discussions avec des amis. Aujourd'hui, je vais aborder le thème de la biodiversité cultivée. Vous êtes sur Radio Pays d'Hérault et RPH Sud, que vous pouvez écouter sur 89, 96.7 et 102.9 MHz ou en podcast à l'adresse électronique rphfm.org. J'ai déjà abordé dans cette chronique la biodiversité des plantes cultivées, les années précédentes, dès 2020. C'est un thème qui me tient à cœur et auquel l'humanité doit porter une attention particulière. Cette année est particulière aussi car du 1er au 5 octobre 2024 sont organisées à Antibes, dans les Alpes-Maritimes, les rencontres internationales du réseau Semences Paysannes. Ce réseau national rassemble 85 associations et individus investis dans la lutte pour la défense des semences paysannes. Simultanément, ces rencontres accueilleront aussi le forum européen Let's Liberate Diversity, Libérons la diversité, en français, rassemblant des organisations de 17 pays au niveau européen. Cette année, un thème particulier sur semences et migration, mais avec beaucoup d'ateliers sur les techniques de production de semences et leur rôle politique. En fouillant dans ma bibliothèque, j'ai trouvé un livre de 2005, « Les arbres voyageurs » de Madame Andrée Corvol, historienne qui a beaucoup travaillé sur les forêts et a analysé les innombrables relations entre la politique, les objectifs économiques, les compétitions entre compagnies, entre pays, pour le développement des sylvicultures, des cultures d'armes, arbres d'ornement, arbres fruitiers ou arbres pour la production du bois. La diversité des arbres cultivés a été un sujet de travail des agronomes depuis plusieurs millénaires. Les citronniers étaient déjà acclimatés en Grèce et en Italie depuis le 2e siècle après Jésus-Christ. À cette époque, ils étaient couverts pendant l'hiver. L'orange est attestée en Chine méridionale en 2200 ans avant Jésus-Christ, il y a 4000 ans. C'était au départ une espèce sauvage, puis elle a été cultivée, sélectionnée en fonction des usages. La culture s'est développée ensuite en Inde, puis dans la péninsule arabique, et de là l'agrumiculture, la culture des agrumes, pamplemousse, citron, cédrat, orange, etc., gagna les pays méditerranéens soumis à la loi musulmane. Les pèlerins en Terre Sainte, au Moyen-Âge, ont commencé à ramener les agrumes en Provence, où ils se sont relativement bien acclimatés. Ne pas oublier que le climat en Europe varie avec des périodes plus ou moins chaudes. Et au Moyen-Âge, il y a eu un réchauffement notable, avec une température similaire à celle de nos jours, suivie d'un petit âge glaciaire au 15e et 18e siècle, entre 1500 et 1800. Ensuite, en France, dès le XIVe siècle, 1400 ans après Jésus-Christ, outre les amateurs, les puissants d'alors, rois, riches, bourgeois, armateurs et nobles, ont investi dans des collections d'arbres exotiques. Le commerce s'est développé, cela a été la création des orangeries, l'introduction d'arbres majestueux comme le platane ou le cèdre, d'arbres pour la production du verre à soie comme le mûrier. À partir du XVIe siècle, les échanges entre l'Amérique et l'Europe ont été très nombreux avec le développement des liaisons régulières maritimes et puis ensuite avec le développement de la marine à vapeur. Il y a eu la recherche des plantes médicinales comme l'arbre à quinquina au XVIIIe siècle, la recherche de plantes à épices comme la vanille qui est une liane ou le poivrier qui est aussi une liane. Pour de nombreuses espèces comme les agrumes, les plantes voyageaient sous la forme de graines. Quoique le transport d'arbres était aussi pratiqué pour des voyages plus courts, comme de la Méditerranée à l'Angleterre, dès le Moyen-Âge. Le transport des arbres et des différentes plantes pour de longues durées, de plusieurs mois, a été très délicat jusqu'à ce que l'on puisse s'occuper des arbres en pot pendant les traversées et dans les ports. Dans cette liste, je n'oublie pas tous les arbres forestiers de nos forêts qui sont souvent des espèces introduites. Au 19e et au début du 20e siècle, les besoins en bois d'œuvre étaient très importants. Aussi, l'utilisation d'espèces halogènes, donc étrangères, était très fréquente en les associant avec des espèces indigènes. Par exemple, en Belgique, l'union des stations de recherche dans une expérimentation plantée à la fin du 19e siècle, des chênes rouges d'Amérique, qui sont encore recommandés en France dans certaines situations, des robinets faux acacias, que tout le monde connaît, des érables de Virginie et des hêtres pourpres, que l'on voit fréquemment, en complément des épicéas et des abies, c'est-à-dire des sapins européens. Tous ces travaux faits sur les espèces forestières étaient réalisés par des organismes publics avec des aides des États. Ne pas oublier que la durée d'exploitation d'une forêt varie de 50 à 180 ans, suivant la nature du peuplement. Donc la biodiversité actuelle, telle que nous l'observons aujourd'hui, est le produit de nombreux échanges, souvent très anciens, mais parfois très récents. C'est valable pour les ligneux, mais aussi pour les plantes annuelles, ou vivaces, alimentaires ou non. Et souvent, nous parlons de diversité pour des espèces qui ont été introduites, cultivées, sélectionnées en Europe depuis plusieurs siècles. Ne pas oublier les travaux de Vavilov, scientifique russe au début du XXe siècle, sur l'origine des plantes. Le chanvre est originaire de l'Asie. Le chanvre peut être industriel, pour la fibre, ou médicamenteux et psychotrope. Le maïs vient d'Amérique centrale. La tomate vient des Andes. Elle s'est bien adaptée à la zone méditerranéenne et certains disent en cultiver plus de 1000 variétés différentes. 1000 variétés qui ont été sélectionnées par l'homme. Dans tous ces travaux, il apparaît deux contraintes importantes, le climat et les modes de reproduction. Les climats où les initiateurs souhaitaient développer de nouvelles cultures étaient la contrainte numéro un. Les plantes devaient pouvoir s'adapter à leur nouvel environnement. Il y a eu des échecs et des succès. La banane, l'ananas sont restés en zone tropicale, les agrumes en zone méditerranéenne, pour avoir une production rentable économiquement. Les grandes zones de production de céréales sont délimitées par des contraintes géographiques et climatiques, la température et l'eau. Ensuite, il fallait aussi des pépiniéristes ou des semenciers pour multiplier les espèces les plus adaptées à des coûts non prohibitifs. La richesse des semences paysannes est le résultat d'un travail fait depuis plusieurs siècles par de nombreux paysans dans leur région. Ces paysans multiplient eux-mêmes les graines des espèces qu'ils cultivent ou échangent avec leurs voisins. Elles s'adaptent au climat et au mode de culture des régions et des hommes. La majorité de la production agricole mondiale est encore assurée par ces semences paysannes. C'est un patrimoine à la fois à ne pas laisser dans les placards, bien qu'il soit très sophistiqué, à moins 17 degrés maintenant, mais un patrimoine à faire vivre. Qui mieux que le paysan qui en vit peut le faire et s'adapter au changement climatique actuel. Donc regardez le site de ces rencontres internationales et rendez-y vous, même si c'est un peu loin, vous pouvez consulter le site de l'association SOL, S-O-L, sol-asso.fr. Et il y a un site uniquement sur ces rencontres internationales. Merci à tous et à toutes de m'avoir écouté. Merci à Radio Pays d'Hérault et RPH Sud de me permettre de m'exprimer. Et à la technicienne de Saint-André-de-Sangonis, Solène.